This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Violence sexuelle dans le sport, l'affaire Régis de Camaret, épisode 4. En 2014, Régis de Camaret, ancien entraîneur, star de tennis à Saint-Tropez, était condamné en appel à 10 ans de prison devant la cour d'assises de Draguignan pour viol et abus sexuels sur Stéphanie et Karine, deux anciennes joueuses mineures au moment des faits. Avant d'arriver à la condamnation de cet homme, il aura fallu 9 années d'une longue bataille judiciaire menée en grande partie par Isabelle de Mongeau, ex numéro 2 du tennis français, victime de ce prédateur sexuel de ses 14 à 23 ans. C'est la première à avoir parlé. Comme elle, 25 femmes disent avoir été abusées par cet homme dans leur jeunesse. Je précise que les viols qu'elles ont dénoncés n'ont jamais été jugés car trop anciens. Aujourd'hui, les choses ont-elles changé depuis la vague MeToo, les victimes de viols et d'attouchements de la part d'autres sportifs ou de leur entraîneur osent-elles porter plainte? Comment se reconstruire après des viols? Le milieu sportif de haut niveau a-t-il évolué en la matière? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec mes deux invités que je suis ravie d'avoir avec moi dans ce studio, Isabelle de Mongeau et Greg Descamps. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de vous revoir, Isabelle.
Ben moi aussi, c'est l'époque. Ça fait quelques années, mais on a vécu un moment très très fort.
C'était très fort.
À Lyon.
Greg Descamps, merci d'être toujours avec nous et de nous éclairer depuis le début de cette saison de Homicide. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'Université de Bordeaux. Vous êtes spécialiste, entre autres, de la question des violences sexuelles dans le sport. Alors, je vais m'adresser d'abord à Isabelle. J'ai une question toute simple. 7 ans après la fin de cette bataille judiciaire, comment allez-vous, Isabelle ?
Je vais bien, je vais mieux. J'avoue que on avance. J'ai pu construire pas mal de projets derrière, tout en ayant quand même un petit regard toujours un peu lointain. Mais il y a eu plusieurs étapes en fait après cette condamnation et cette bataille qui a été finalement épuisante. J'ai eu envie de m'écarter un petit peu de tout ce combat personnel parce que, je sentais qu'on ne voyait plus que la femme violée. Et puis, peu de temps après, il y a eu Sarah Abitbol qui a dénoncé ce qu'elle avait subi. Et là, je me suis dit... Il faut rebouger. Et là, j'ai vu quand même une différence par rapport à comment j'ai parlé. J'ai bien vu que Sarah, à la différence de mon époque...
Sarah Abitbol, championne de patinage artistique.
Voilà, on la croyait tout de suite. Elle a été crue tout de suite. Et ça a été une grosse différence. Car moi, j'ai subi pendant, vous avez dit 9 ans de procédure, des gens qui, malheureusement, c'est une forme de rejet que j'ai ressenti. Où on attendait le verdict et on n'était pas du côté des victimes.
Quoi. Mmh. Voilà. On attendait de voir si vous disiez la vérité.
Voilà, donc 9 ans, c'est long. 9 ans, tous les jours, vous vous levez et puis vous passez par des étapes et vous vous dites, oui, il s'est bien passé des choses. Et 25 victimes, c'est énorme quand même. Et puis, plus toutes celles qui n'ont pas pu parler aussi, j'avoue, mais ça, on leur laisse le temps, c'est respecter aussi le temps qu'elles vont mettre.
Vous savez qu'il y en a d'autres, c'est ça ?
Oui, il y en a d'autres, bien sûr. Et puis, la famille aussi, à un moment donné, a du mal à accompagner cette parole. Et c'est là où je me rends compte aujourd'hui que c'est bien de demander aux victimes de parler, mais finalement, aujourd'hui, il faut surtout accompagner cette parole. Il faut l'aider. Et ça commence par le cercle de la famille.
On va y revenir juste après à cette famille. J'ai une question d'abord. Vous parliez de Sarah Abitbol, championne de patinage artistique dans les années 2000, victime également de son entraîneur. Vous disiez que quand elle a parlé, elle a été entendue, contrairement à vous au départ. Or, Sarah Abitbol, elle a été écartée de sa fédération lorsqu'elle s'est mise à parler. L'isolement, Greg Descamps, est-il le prix à payer quand on ose dénoncer son agresseur ?
Ça a été le cas pendant très longtemps. Les choses sont désormais en train d'évoluer. Si Sarah a été crue lorsqu'elle a publié son ouvrage récemment,
c'est-à-dire en fait.
Longtemps après avoir tenté d'alerter sa fédération, et sa fédération a fait tout ce qu'elle pouvait pour dissimuler les agissements des agresseurs, parce qu'il y en avait plusieurs et qui étaient connus. Lors de la sortie de l'ouvrage d'Isabelle en 2007, a donné lieu à ce qu'on aurait dû avoir lors de la sortie de l'ouvrage de Catherine Moyon de Bac dans les années
93.
90. Hein. Donc ça fait 30 ans que tout ça existe. À l'époque, les institutions sportives étaient terrorisées à l'idée qu'on découvre d'autres cas, parce qu'on savait qu'il y en avait. Et pour faire face à cette terreur, eh bien, la réaction des institutions sportives, c'était de dire... Il faut essayer de mettre un maximum de poussière sous le tapis. Et on va continuer, dans la mesure du possible, à dissimuler les agissements dont on a connaissance. Et en 2020, Sarah parle. Entre-temps, il y a un certain nombre de mouvements de libération de la parole qui sont passés par là dans un certain nombre de domaines. Et quand Sarah parle, eh bien, en plus du gouvernement, le monde sportif se saisit du sujet, comme en témoigne la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français, qui à l'époque a publié, au bout de quelques jours, une tribune demandant à toutes les instances de s'engager pour que ces violences cessent. La ministre elle-même, très engagée sur le sujet, Roxana Maracineanu, créer une délégation ministérielle dédiée à la lutte contre ces violences, ainsi qu'une plateforme de signalement de ces violences. Et puis, on a de plus en plus d'actions de sensibilisation des sportifs et de formation des encadrants qui se mettent en place. Donc, le dispositif, là, commence à être enfin complet, efficace, mais il appartient à tous de faire en sorte qu'il continue d'être efficace et qu'il devienne pérenne.
C'est-à-dire, une victime parle aujourd'hui, on l'écoute et on la croit.
Mais, C'est exactement ça. Non seulement on l'écoute, et surtout, on la croit. J'entends souvent, autour de ce sujet, oui, il faut libérer la parole des victimes. Non mais stop. Ça fait 30 ans que les victimes, elles parlent. Oui. Sauf que quand elles parlent, soit on les écoute pas, soit on les écoute mais on les croit pas. Et encore pire, celles qui étaient crues, qu'est-ce qu'on leur disait ? On leur disait, écoute, il vaut mieux que tu te taises. Il vaut mieux que tu fasses pas de vagues. Ça, c'est terminé.
D'accord.
C'est terminé.
Et justement, Isabelle, si je peux me permettre, ma fédération de tennis, Fédération française de tennis, elle s'est constituée partie civile pour la première fois en 2018 dans l'affaire de M. Guedes. Et elle m'a tendu la main pour la première fois 13 ans après la parution de mon livre.
13 ans.
Voilà. Alors, je pense qu'un ouvrage fait la différence. Ça bouscule beaucoup plus.
Oui. Et ce qui est très fort, c'est que c'est du témoignage. Et là, la parole est libre. C'est votre témoignage. Il n'y a personne qui vient vous dire « c'est faux » ou « tais-toi ». Voilà, c'est l'importance aussi de ces écrits qui restent.
Bien sûr. Et moi, je peux constater, en tout cas, au sein de ma famille, c'est que j'ai pu leur parler à un moment donné quand même de réellement tout ce qui s'était passé. Ils mettent des dates, des années, du nombre d'années où j'ai été violée. Et forcément, quand ma famille a lu le livre, ça a percuté à tel point que ça leur a fait du mal. Forcément, il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de terreur. J'avais mon père qui le lisait tous les jours et qui s'excusait tous les jours. Mais en fait, je me rends compte que derrière, moi, j'ai réussi à toujours être plus ou moins traitée, à être accompagnée par des psychologues pour aller mieux, pour avancer aussi avec tout ça. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que finalement, tout le monde aurait dû être traité aussi de la même façon. Et ce que j'espère, c'est aujourd'hui de demander moi à ma fédération de dire, ben voilà, la jeune femme qui va venir ou le jeune garçon, parce que tout le monde est touché, que ce soit garçon ou fille, c'est qu'elle puisse s'appuyer complètement sur une cellule. Et notre fédération française de tennis l'a commencé à la créer. Et là, ça devient intéressant.
Concrètement, une victime aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Vers qui elle se tourne? Y a-t-il un numéro? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil?
On trouve très facilement sur le site web du ministère des Sports un certain nombre d'informations pour savoir comment se protéger ou comment se faire accompagner. C'est la rubrique « Éthique et intégrité ». Et il y a dans cette rubrique un certain nombre d'informations, que ce soit pour les victimes de discrimination, de racisme, d'homophobie, de harcèlement, qu'ils soient sexuels ou non. Il y a des coordonnées d'un certain nombre de structures, et ces structures, elles commencent, par exemple, si ce sont des centres d'écoute, elles commencent par recueillir la parole des victimes, et à partir des quelques éléments que la victime va pouvoir fournir, eh bien, la victime va être orientée. C'est-à-dire que les écoutants vont indiquer à la victime, écoutez, dans votre région, dans votre département, dans votre ville, il y a telle et telle et telle structure qui pourra vous proposer un accompagnement médical, un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique, ou l'ensemble des trois. Elle dépose les informations auprès des professionnels dont c'est le rôle de gérer ce genre de choses. Et ensuite, les professionnels s'occupent du dossier de la victime. Et ça respecte la temporalité dont parlait Isabelle. Parce que, au-delà du fait de faire la démarche de signaler à des avocats, des psychologues qu'on a été victime, eh bien, le fait de rendre la parole publique et de s'engager dans un procès, c'est encore une autre temporalité.
Isabelle, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça?
Oui, moi, c'était difficile pour moi parce que j'étais donc prescrite à l'époque. Et c'est vrai que j'ai contacté un certain nombre de jeunes filles de ce centre d'entraînement. Et finalement, on s'est entraînées entre celles qui étaient prescrites et non prescrites. Et les prescrites, elles pouvaient parler, mais il fallait être connue pour parler. Donnait pas la parole à tout le monde non plus dans les médias. Donc, en fait, ça a été compliqué toute cette période. Et moi, je suis finalement dans cette forme d'enquête qui a commencé, puisque après, c'est le gendarme qui a pris le relais. Forcément, je suis tombée sur un gendarme exceptionnel. Monsieur Jean-Marc Delfaux, il m'a cru dès le premier jour.
C'est super, voilà.
En tout cas, de savoir que...
Il y a une solidarité qui peut...
Peut-être que la jeune fille, elle va se sentir isolée au début, mais peut-être qu'il y en a d'autres, finalement. On n'est peut-être pas les seuls. Puis, il y a peut-être celles qui sont déjà prescrites, mais du coup, qui vont pouvoir accompagner aussi cette victime.
Vous avez parlé tout à l'heure, Isabelle, de vos parents qui n'ont rien vu pendant des années. Certains préfèrent même ne pas voir. Je pense au témoignage de Marjolaine qu'on entend dans cette saison de homicide, qui tente de le dire à ses parents tout de suite et sa mère qui répond « tu es sûre ». Du coup, elle se tait, elle n'en parlera plus jusqu'au procès. Je vous pose la question à tous les deux, parce que Isabelle, vous êtes toujours en contact, évidemment, avec des jeunes, et puis à Greg, qui est spécialiste. Les choses ont-elles changé? Existe-t-il une prise de conscience chez les parents? Je prends comme exemple ce premier jour où vous êtes toute seule dans cet hôtel avec cet entraîneur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui existent encore, ça?
Malheureusement, je crois que oui. En tout cas, la règle du jeu de ne pas... avoir qu'une seule chambre pour l'entraîneur et la joueuse ou le joueur. Mais qui est-ce qui est allé, qui est-ce qui va vérifier ça, en fait? Est-ce que c'est compliqué, quand même? Et puis, on est toujours sur un problème de coût. Ça coûte cher de prendre deux chambres. Et c'est là où les parents vont devoir se remettre aussi en question sur qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que c'est la victoire à tout prix? Et c'est là où il faut que y a un vrai travail à travers les parents. Et pour moi, c'est la prochaine étape.
Oui.
C'est, je pense que les générations d'aujourd'hui, les jeunes parents, sont aptes à être très vigilants par rapport à leurs enfants.
Il ne faut pas tomber non plus dans une autre paranoïa, mais, ce qui est terrible, Greg Descamps.
Le terme de vigilance, il est particulièrement approprié justement pour éviter un registre qui serait celui de la suspicion permanente.
Oui, c'est ce qui peut être terrible aussi.
C'est pas envisageable.
Bien sûr.
Imaginez le vécu des entraîneurs qui sont des professionnels remarquables si on était en permanence à les suspecter de tout, etc. Donc, il faut être vigilant, mais la réalité, c'est que les parents font partie des... pour l'instant, des grands oubliés, hein, des campagnes de sensibilisation ou de voire même d'éducation, hein, qu'il conviendrait de mettre en place, on en discute, hein, au sein du ministère. Aujourd'hui, l'entraîneur continue de bénéficier du statut privilégié qu'avaient les instituteurs il y a 50 ou 70 ans et continue de faire l'objet d'une délégation de l'autorité parentale. Et ça, il faut faire attention. Alors, il faut sensibiliser les parents au simple fait de s'intéresser à la façon dont ça se passe, cette pratique sportive de l'enfant. Comment ça se passe au quotidien? Comment ça se passe l'entraînement? Être vigilant et participer d'une certaine façon à la carrière de l'enfant, c'est pas systématiquement s'interposer à la relation entre l'enfant et l'entraîneur. Non, c'est demander à l'enfant et comment ça se passe.
Alors, j'aimerais quand même qu'on stigmatise pas dans cette émission tous les entraîneurs, d'autant plus
bien
que
sûr.
La majorité des attouchements sexuels se font de sportifs à d'autres sportifs. Rendons quand même hommage aux grands entraîneurs qui font de vrais champions ou pas, ou qui accompagnent aussi sereinement les enfants dans la pratique du sport. Isabelle, pour finir, comment vivre avec ce handicap invisible et comment on se répare ?
Ma prochaine étape, j'ai envie de dire, va prendre peut-être quelques années, 2-3 ans peut-être, je ne sais pas, c'est la réparation. En fait, la réparation, y a besoin de la réparation de l'agression physique et psychologique, bien sûr, mais on a besoin aussi de retrouver sa place à un moment donné, pourquoi pas, dans ce que j'étais, en fait, une ancienne championne. Passionnée de tennis et c'est vrai que je trouve que à un moment donné il faut arriver à essayer de pas subir de nouveau un autre rejet et de pouvoir s'imposer un petit peu avec des idées et qu'on là aussi qu'on soit entendu. Notre handicap est invisible et et finalement, parfois, je me dis, est-ce que ça serait pas possible, à un moment donné, que ça soit déclaré comme handicap, quoi, que c'est parce que c'est pour toute la vie. Comme je dis, à chaque fois, on retourne dans le trauma, on y retourne facilement, et c'est d'essayer de mieux vivre, en fait. Et pour mieux vivre, c'est de nous remettre dans notre passion, dans notre savoir-faire, et de nous donner notre place. Donc, c'est là où moi j'ai envie, c'est un vrai sujet. Et j'avais proposé il y a pas si longtemps de monter une cellule appropriée, un petit peu comme la cellule anticorruption, qui puisse, ou de dopage, qui puisse à un moment donné, que ça soit plus au bon vouloir d'un président d'une fédération ou d'un parent ou d'un club ou d'un dirigeant de club, mais que ça soit acté.
Institutionnalisé,
tout à fait. Et je crois que ça, c'est la prochaine étape. Et je pense qu'elle est nécessaire, en tout cas dans ce domaine-là.
Isabelle, votre agresseur et celui de tant d'autres femmes est aujourd'hui sorti de prison. Vous y avez pensé à ça ?
Pas vraiment. J'avais évacué ça. Pour moi, c'était réglé, en fait. Et puis, c'est au moment de faire ce film où mon producteur m'a dit « Tiens, au fait, est-ce qu'il est sorti ?» Ah, mais tiens, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ou pas, je ne sais pas.
La justice a estimé qu'il ait fait son temps.
Moi, je voudrais être certaine que cet homme ne soit plus en contact avec des enfants. Est-ce qu'on a essayé de s'y pencher? Je ne sais pas. C'est pas à moi de le faire, c'est aux instances d'y réfléchir aussi. Mais là encore, c'est parce que cette affaire est tellement loin, en fait. Et c'est vrai
Mais tu vois, Isabelle, quand tu dis... Je ne sais pas comment on peut se préparer à ça, à la sortie de prison de l'agresseur, mais là, d'une certaine façon, le fait que tu ne te sois pas posé la question, c'est bon signe et c'est ce qu'on peut souhaiter à toutes les autres personnes qui pourraient avoir à subir un parcours tel que celui que tu as subi. Ça illustre bien le fait que la reconstruction, ça n'est pas, et c'est difficile, rester dans le passé, continuer à maintenir dans le présent tous ces agissements passés et à réfléchir à la façon dont ils vont continuer à perturber notre futur. Non, se reconstruire, c'est faire en sorte qu'à un moment, on puisse se dire, voilà, ces événements passés, je peux considérer qu'ils appartiennent à mon passé. Aujourd'hui, mon présent est celui-là, et voilà comment je peux me projeter dans le futur.
Merci beaucoup, Isabelle de Mongeau, d'être
venue. Merci à vous. Merci. Je trouve
podcast.
Que c'est important. Merci. En tout cas, c'est une première pour moi, et je suis ravie avec Greg qu'on ait pu faire ça
ensemble.
Ensemble, oui, vraiment.
Merci beaucoup, Greg Descamps. Et merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette saison de Homicide. Si vous voulez en savoir plus sur la question des violences dans le milieu sportif, je vous invite à lire les livres qui m'ont accompagné tout au long de la préparation de cette saison. Le livre d'Isabelle de Mongeau, Service volé, chez Michel Lafon. Le livre de Sarah Abitbol, Ainsi long silence, chez Babelio. Le livre L'entraîneur et l'enfant, du journaliste Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac, paru au Seuil, très riche d'enseignements. Et enfin, votre site, grecdescamps.com, vous aurez accès à ces nombreux ouvrages et ces deux rapports ministériels sur la question. Voilà, vous savez tout. En attendant la prochaine saison de Homicide, n'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast autour de vous. Et si cette saison vous a plu, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir sur Instagram, Twitter ou sur vos applis de podcast préférés.